RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
À la une de votre journal, les derniers détails de l'accord de trêve à Gaza finalisé ce matin.
Accord annoncé cette nuit par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Accord dont on attend le feu vert officiel tout à l'heure par le cabinet de sécurité. Accord loin d'être appliqué. Pour l'instant, vous entendrez l'indignation des Gazaouis. Gaza, où rien n'a changé depuis l'annonce du cessez-le-feu.
Le Proche-Orient où débarque ce matin Emmanuel Macron, le président français, est au Liban.
Première visite depuis 2020 pour rencontrer les nouvelles autorités libanaises. Joseph Aoun, le nouveau président, et Nawaf Salam, le nouveau Premier ministre. Nous serons aussi à Los Angeles dans ce journal où les feux sont quasiment contenus et où les habitants tentent de reprendre le cours normal de leur vie. Arim Lipold sera en direct du quartier d'Altadena en France. 50e anniversaire ce vendredi de la loi Veil sur l'IVG. Avant cette date, les femmes désireuses d'avorter se risquaient à de très risquées opérations clandestines. Enfin, nous irons danser à Groningen, aux Pays-Bas avec José Mourinho pour la 39e édition du festival Eurosonic, festival des fricheurs et des nicheurs de talents.
Au Proche-Orient, accord de cessez-le-feu annoncé ce matin par Israël.
Ce que fait savoir ce vendredi, en tout cas, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le cabinet de sécurité et la coalition gouvernementale qui doivent se réunir tout à l'heure pour donner le feu vert. Le bureau de Netanyahou qui avait accusé hier le Hamas de revenir sur certains points essentiels de l'accord. Le cessez-le-feu à Gaza qui doit lui entrer en vigueur ce dimanche. Pour l'heure, l'armée israélienne bombarde toujours le territoire enclavé. Le ministère de la Santé du Hamas qui annonce 81 nouveaux morts ce jeudi. Ce qui suscite l'indignation des Gazaouis qui dénoncent l'acharnement israélien. Un reportage de Rami Al-Merari avec Samy Bourkhalifa.
À Gaza, depuis l'annonce du cessez-le-feu, rien n'a vraiment changé. Les bombes continuent de s'abattre. La mort, le deuil, encore. Mohamed, habitant de Deir el-Balah, a été réveillé en pleine nuit par de violentes déflagrations.
Les frappes qui ont visé Deir el-Balah durant la nuit ont été vraiment dévastatrices. Un campement de déplacés a entièrement brûlé. On parle de plus de 20 morts. Alors on nous dit que la trêve entrera en vigueur dimanche à 12h15, mais en attendant, le sang continue de couler.
Tristesse, colère, Jamil est à bout. Plus qu'aux Israéliens, il en veut surtout aux médiateurs qatariens et égyptiens qui ont aidé à négocier ce prochain arrêt des combats.
Le cessez-le-feu aurait dû prendre effet immédiatement. Pourquoi avoir donné aux Israéliens 4 jours supplémentaires pour leur permettre de tuer davantage de gens? Ils n'en ont pas tué assez comme ça? C'est injuste. Mais c'est de la faute des négociateurs arabes qui sont faibles et qui resteront faibles toute leur vie.
Ces bombardements ne tuent pas seulement les Palestiniens, mais ils mettent les otages israéliens en danger, avertit le Hamas. Rami Al-Merari, Gaza, Sami Bourkhalifa, Jérusalem, RFI.
Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est lui dit confiant quant à la mise en œuvre du cessez-le-feu, qui doit donc débuter dimanche pour une durée de 6 semaines. Les pays du G7 qui appellent les différentes parties à assurer une pleine mise en œuvre de la trêve. Accord dénoncé comme irresponsable par l'extrême droite israélienne. Le ministre de Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui appelle d'ailleurs à couper toute aide humanitaire pour Gaza si l'accord est appliqué. Une aide humanitaire qui doit progressivement entrer dans le territoire dans les jours à venir.
Accord de cessez-le-feu dont la France est garante au Liban voisin. Emmanuel Macron est arrivé à Beyrouth ce matin.
Et pour accueillir le président français, des nouveaux visages, ceux du nouveau président Joseph Aoun ou du nouveau Premier ministre libanais Nawaf Salam. Visite officielle pour Emmanuel Macron. La première dans le pays depuis 2020, venue marquer le soutien sans faille de la France au Liban, selon la présidence, alors que le pays vit un moment historique. Paul Ralifet.
Vaste programme au menu de la visite d'Emmanuel Macron au Liban. La première d'un chef d'État étranger depuis l'élection de Joseph Aoun à la présidence le 9 janvier et la désignation de Nawaf Salam au poste de Premier ministre le 13 janvier. En tête des priorités, la consolidation de la fragile trêve qui a mis fin le 27 novembre à la guerre entre le Hezbollah et Israël. Ce cessez-le-feu est quotidiennement violé par l'armée israélienne qui n'a pas encore achevé son retrait d'une partie du sud du Liban. Emmanuel Macron veut aussi apporter son soutien à la formation dans les meilleurs délais d'un gouvernement. Il va tenter de rassurer les partis chiites qui hésitent à participer à la reconstitution du pouvoir exécutif pour protester contre ce qu'ils appellent une embuscade politique qui a porté Nawaf Salam au pouvoir contre leur gré. Pour réussir, le nouveau gouvernement doit rassembler et doit mener les réformes essentielles au redressement du pays, selon Paris. Lors de cette visite d'une journée, Emmanuel Macron doit rencontrer les présidents de la République et du Parlement, le Premier ministre désigné et les représentants d'un large éventail de forces politiques libanaises. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI.
RFI, 22h05 à Los Angeles, où les victimes des incendies tentent de reprendre une vie normale.
Les feux sont quasiment maîtrisés et les sinistrés mesurent l'étendue des dégâts. Après 10 jours d'incendies qui ont provoqué la mort d'au moins 24 personnes, direction le quartier d'Altadena, sur les hauteurs de la ville, quartier modeste, où s'est rendu notre envoyé spécial, Arim Lipold. Bonjour Arim.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Alors Altadena, quartier de locataires, à forte population immigrée, population qui retrouve une localité aux allures de champ de bataille.
Oui, exactement. Beaucoup de maisons ont été entièrement rasées par les flammes. Souvent, il ne reste que la cheminée construite en briques qui tient encore debout devant les ruines. Martin, on voit des carcasses de voitures calcinées. Certains habitants ont été évacués en moins de 15 minutes. Pour l'instant, il est interdit de retourner sur place, même pour ceux dont les maisons ont été encore épargnées.
Et maintenant, Arim, que se passe-t-il à Altadena?
Bien, j'ai vu que le déblayage a commencé. Les autorités inspectent aussi les lignes électriques et les conduites de gaz pour des raisons de sécurité. La police patrouille sans relâche pour prévenir tout risque de pillage avec les habitants partis. Eh bien, la nature aussi reprend un peu ses droits. J'ai même vu des renards se promener entre les ruines. Altadena, vous l'avez dit, c'est un quartier modeste, chargé d'histoire. C'est le premier quartier afro-américain historique de Los Angeles. Aujourd'hui, on y rencontre aussi des communautés latino et asiatiques. J'ai discuté tout à l'heure avec un sinistré, un afro-américain, qui vivait ici avec sa grand-mère à 84 ans. Cette femme a déjà survécu à l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans, aux grandes inondations de Houston. Et voilà qu'elle est encore une fois victime à 84 ans d'une catastrophe naturelle. Elle a perdu sa maison, mais elle a réussi à sauver sa vie.
Voilà une jolie conclusion. Vous transmettrez nos amitiés au renard. Merci Arim Lipold, envoyé spécial de RFI en direct de Los Angeles.
Les États-Unis toujours et ses nouvelles sanctions contre le Soudan.
La semaine passée, Washington sanctionnait les forces de soutien rapide du général Hemeti, accusé de génocide. Et cette fois, c'est au tour du général Al-Burhan, chef des forces armées soudanaises, d'être sanctionné par le Trésor américain. Al-Burhan accusé de crimes de guerre, les États-Unis qui reprochent au général d'être un obstacle à la transition démocratique. Guillaume Nodin.
Il s'agit en quelque sorte de joindre les actes à la parole. Le 7 janvier dernier, quand le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait déterminé que les forces de soutien rapide, en guerre avec les forces armées soudanaises, s'étaient rendues coupables de génocide, il était bien spécifié que cela ne voulait pas dire que Washington soutenait un camp plutôt que l'autre. Ces sanctions contre le général Al-Burhan viennent confirmer cette position. Le Trésor américain décide donc de geler les avoirs du chef de l'armée soudanaise. Selon le communiqué, ces sanctions financières montrent l'engagement américain pour la fin de ce conflit. Le pays continuera d'utiliser les outils à sa disposition pour arrêter le flux des armes vers le Soudan et pour tenir ses dirigeants responsables de leur mépris flagrant pour la vie des civils, est-il ajouté. Néanmoins, les deux camps ne sont pas totalement mis sur un pied d'égalité à Washington. Ils sont tous les deux accusés de crimes de guerre, mais en plus, les forces de soutien rapide sont accusées de crimes contre l'humanité et de génocide. Et depuis le début du conflit, l'interlocuteur privilégié de la diplomatie américaine est bien le général Al-Burhan, représentant de l'État soudanais à l'étranger. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
En Chine, la population est en baisse pour la troisième année de suite.
Et l'Empire du Milieu qui comptait tout de même 1,408 milliard d'habitants en 2024, mais c'est deux de moins que l'année précédente. La Chine, Julien, qui ralentit sur tous les plans, puisque la croissance économique aussi marque le pas. Une croissance à 5% l'an passé, taux le plus faible depuis près de 30 ans, sur fond de crise du secteur immobilier et à cause de tensions commerciales avec les États-Unis et avec l'Union européenne.
En France, pas de censure et un peu de répit pour le gouvernement Bayrou.
Avisé par une première motion de censure hier à l'Assemblée nationale, motion portée par la gauche, par la France insoumise, les communistes et les écologistes. Mais pas par le Parti Socialiste. Résultat, 131 voix pour la motion, loin du seuil des 288 nécessaires pour renverser le gouvernement.
7h09 à Paris, nous sommes le 17 janvier 2025 et il y a tout juste 50 ans était promulguée en France la loi Veil.
Il suffit d'écouter les femmes s'époumonner la ministre de la Santé, Simone Veil, à la tribune. Simone Veil qui donnera son nom à cette loi historique légalisant l'interruption volontaire de grossesse dans l'Hexagone. Après des mois de débats houleux, avant cette date, les femmes qui ne désiraient pas d'enfants étaient contraintes d'avorter clandestinement. Un choix douloureux et aux séquelles multiples. Laurence Théo a rencontré l'une d'entre elles, Laure, qui a avorté dans les années 70.
Elle est étudiante en médecine et très amoureuse d'un jeune homme lorsque Laure apprend qu'elle est enceinte. À cette époque, en 1971, l'avortement est illégal. Accompagnée de sa mère, la jeune fille de 19 ans consulte un médecin qui la dirige dans une clinique où elle peut avorter clandestinement. Laure a 72 ans aujourd'hui. Elle est gagnée par l'émotion quand elle évoque un souvenir particulier.
Je me suis retrouvée dans une chambre seule, mais dans laquelle il y avait un petit berceau en plastique transparent, enfin, dans lequel on met les nouveau-nés, pour qu'ils soient auprès de leur maman après l'accouchement. Et je dois avouer que ça a été douloureux. Et donc, j'ai eu envie de partir par la fenêtre de cette chambre pour poursuivre ma grossesse loin de tout le monde sans avoir...
Aujourd'hui, ça n'existerait plus du tout, cette bourde-là. Donc, est-ce qu'on peut le raccrocher quand même au fait que l'IVG à l'époque est illégal ?
Enfin oui, je pense que c'est de l'ordre de la maltraitance, peut-être pas voulu. Hein. Avec le temps, je me suis rendu compte que cette décision, je ne l'avais pas mûrie, je ne l'avais pas... Avec le fait de ne pas avoir pu en parler en prenant un peu de distance, quand j'en parle, je suis encore un peu émue.
Laure est devenue gynécologue, elle a milité pour l'avortement et exercé dans l'un des tout premiers centres IVG hospitaliers créé en France.
Laurence Théo du service France de RFI.
Le monde du cinéma en deuil. David Lynch est mort hier à l'âge de 78 ans.
C'est sa famille qui l'annonce sur Facebook. David Lynch, un virtuose de l'image à la filmographie singulière, auteur de 10 longs métrages entre 1977 et 2006. Sailor et Lula, par exemple, Palme d'Or à Cannes en 1990. Ou encore Mulholland Drive et Elephant Man, le cinéaste américain qui a succombé des suites d'une maladie pulmonaire.
On termine ce journal aux Pays-Bas. On part taper du pied à Groningen.
Ah oui, pour la 39e édition d'Eurosonic, l'un des plus grands festivals musicaux au monde, consacré à la découverte de jeunes talents. Les rues de Groningen, où est parti flâner José Mourinho à la rencontre des jeunes talents.
Ça grouille à Eurosonic. Les 30 scènes dispersées dans la ville étudiante sont bondées. Tout ce que Groningen compte de clubs, pubs, brasseries, salles, théâtres, chapiteaux ou écoles est mobilisé pour la circonstance et pris d'assaut par près de 25 000 festivaliers. Rock, pop, électro, plus de 300 jeunes groupes venus des quatre coins de l'Europe sont au programme. Entre les DJ Can Blaster et les rappeurs de Meute, la France apporte son lot de pépites. À cela s'ajoutent 3000 professionnels de labels, programmateurs de festivals qui convergent de la sorte dans le nord des Pays-Bas en quête de la perle rare. Eurosonic, c'est tout simplement l'un des plus grands festivals de découverte musicale au monde. Tous les ans, il décerne le prestigieux prix Music Moves Europe Award, un musicien européen prometteur et exigeant. Après Stromae, Rosalia et Zao de Sagazan, c'est Yamé qu'il remporte cette année. Entre jazz, rap et réminiscence d'Afrique, le franco-camerounais autodidacte triomphe à Groningen. José Mourinho, Eurosonic, Pays-Bas, RFI.
Bah ouais, Yamé et sa bécane pour refermer cette édition. Je laisse le guidon à notre ami chevelu, Julien Coquelroen, pour la suite de Rafimata.
Merci Martin Guez, à tout à l'heure. Et dans 5 minutes, notre invité Ariane Tamir, membre de la famille de Tal Shoham, toujours retenu en otage dans la bande de Gaza. Mais tout de suite, les sports. Avec vous Antoine Grenier, un journal des sports qui démarre en Espagne où le Real Madrid s'en est remis aux jeunes face au Celta Vigo.
Dans un huitième de finale de Coupe du Roi que les Madrilènes pensaient s'être rendu facile en menant 2-0 au retour des vestiaires grâce à Kylian Mbappé et Vinicius. Mais en fin de rencontre, l'avantage a fondu en 8 minutes sur des buts de Bamba et Marcos Alonso sur penalty. Le Real alors poussé en prolongation s'en est remis au Brésilien Hendrick, auteur d'un doublé et qui a permis aux Merengue de s'imposer 5-2.
En France, ouverture de la 18e journée. Journée de Ligue 1 ce vendredi, Monaco veut se remettre d'aplomb.
L'ASM qui n'a remporté que 2 matchs sur ses 10 derniers, toutes compétitions confondues, éliminé en 16e de finale de Coupe de France, est désormais à 5 points de la 2e place de Marseille en Ligue 1. Le déplacement à Montpellier, lanterne rouge qui n'a plus gagné depuis novembre, serait donc le bon moment pour se relancer. C'est le message du défenseur ghanéen Mohamed Salissou.
Je pense que ce match contre Montpellier est très important pour l'équipe. Vous savez, en foot, tout le monde a des hauts et des bas. Pour nous, en ce moment, ce sont plutôt des bas. Nous connaissons une passe difficile, à nous de trouver comment s'en sortir. Pour cela, nous devons juste travailler tous ensemble et puis croire en nous, sur le terrain et dans la tactique du coach. Et je suis certain qu'alors nous retrouverons nos standards et une bonne forme.
Montpellier-Monaco, coup d'envoi 18h, temps universel, juste avant Lille-Nice à 20h05 TU.
En handball, le mondial démarre tranquillement pour l'équipe de France.
Première victoire facile contre le Qatar lors de la première journée. Et ce jeudi, les Bleus n'ont fait qu'une bouchée du Koweït, 43-19. Avec ce deuxième succès, les Français sont assurés de sortir du tour préliminaire avant même le troisième match contre l'Autriche. Des Bleus sans véritable opposition jusqu'ici, mais c'est suffisant pour les mettre en jambes, estime l'arrière Melvin Richardson.
C'était important pour nous d'être concentrés du début jusqu'à la fin. Ça a été chose faite. Mais voilà, on a bien préparé le match. On a été sérieux, on a été appliqué, on a su bien courir. Tout le monde a pu transpirer, donc c'est cool. C'est de bon augure pour la suite. Et voilà, donc non, en tout cas, le rythme est bon. L'équipe est bien, pas de bourreau pour le moment. Et maintenant, on espère arriver au mieux et bien préparer le match contre l'Autriche.
Melvin Richardson, chez nos confrères de beIN Sport, les autres nations assurées de rejoindre le tour principal. L'Autriche, justement, qui a dominé le Qatar 28-26. Le Danemark également, qui s'est imposé sur la Tunisie 32-21, tout comme l'Italie, qui a dominé l'Algérie 32-23.
On termine avec le tennis et le troisième tour de l'Open d'Australie.
Premier qualifié pour les huitièmes de finale, l'Américain Tommy Paul, vainqueur en 3-7 de l'Espagnol Carbaez Baena, 7-6-6-2-6-0. Carlos Alcaraz pensait le suivre de près, mais l'ancien numéro 1 mondial s'est un peu compliqué. Un match pourtant maîtrisé face au Portugais Nuno Borges, 33e à l'ATP, vainqueur des deux premières manches, 6-2-6-4. Alcaraz a perdu la troisième au tie-break. Une journée d'Open d'Australie qui verra Novak Djokovic affronter le Tchèque Tomáš Macák à partir de 8h, temps universel. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, s'est inquiétée pendant le premier set face à la Danoise Tauson, mais elle s'est finalement imposée 7-6-6-4.
Merci Antoine Grenier. Et bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui l'économie avec vous et ce matin cap sur les États-Unis puisque dans trois jours Joe Biden va définitivement quitter la Maison-Blanche. 4 ans de mandat qui prennent fin lundi. L'occasion pour nous de faire le point sur le bilan économique de Joe Biden à la présidence américaine.
Stéphane. Oui, pour paraphraser une formule célèbre, le bilan est globalement positif. Joe Biden a pris ses fonctions en janvier 2021 avec une priorité, relancer l'économie du pays après la crise du Covid. 4 ans plus tard, on peut dire que ses missions réussies, la plupart des indicateurs sont au vert. La croissance a l'air partie, elle est aujourd'hui aux alentours de 3%. Plus de 16,5 millions d'emplois ont été créés durant le mandat de Joe Biden. Le taux de chômage a lui fortement chuté, estimé à 4,2%, avec une période sous les 4% d'une longévité inédite depuis les années 60.
Pourtant, Stéphane, sa présidence, en termes économiques, était mal embarquée.
Oui, lorsque Joe Biden arrive à la Maison-Blanche, le pays sort à peine des confinements, l'économie est à genoux, la croissance est négative. Il pense avoir la solution avec ce que les observateurs vont appeler les Bidenomics, c'est-à-dire ces différentes mesures. Le démocrate adopte alors une politique interventionniste avec un plan de sauvetage de l'économie américaine de 2000 milliards de dollars voté dès son arrivée au pouvoir. La stratégie adoptée fonctionne, sauf que le pays est vite confronté à un manque de main-d'œuvre. La production ne va pas assez vite, la demande, elle explose. La mécanique se grippe, résultat, ce sont les prix qui ont explosé.
Oui, car impossible de ne pas évoquer l'inflation qui a frappé de plein fouet les Américains.
C'est la principale préoccupation des électeurs et malgré ce paysage économique plutôt au beau fixe, comme on l'a dit il y a quelques secondes, c'est l'inflation qui a été au premier plan. Elle a augmenté à toute vitesse, elle a même dépassé les 10% en milieu de mandat de Joe Biden. Les Américains sont étouffés par cette inflation, d'autant que les salaires, eux, n'ont pas augmenté aussi vite. Conséquence, le revenu réel, lui, eh bien, il est resté presque stable. On peut tout de même lui noter un léger frémissement aux alentours de 2% durant ces 4 dernières années.
Mais là encore, Joe Biden a dégainé ses Bidenomics pour relancer l'économie du pays.
Oui, et le nom de cette mesure, c'est l'Inflation Reduction Act. Un grand paquet législatif de 400 milliards de dollars mis en place à l'été 2022 pour réduire l'inflation. L'ambition est claire, relancer l'économie avec des crédits d'impôt à tout va pour favoriser les investissements privés, la production d'énergie verte ou encore la baisse des prix des médicaments. À cela aussi, Julien, il faut ajouter la guerre en Ukraine puisque les États-Unis ont très largement contribué à armer le pays. Dépenses de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui ont tout de même bénéficié à l'industrie militaire américaine.
Donc si on comprend bien, Donald Trump va retrouver un pays dans un bon état.
Oui, mais le revers de la médaille de toutes ces mesures de Joe Biden, c'est l'explosion de la dette publique à hauteur de 125% du PIB américain. Pourtant, Julien, c'est tout le paradoxe. Si Joe Biden a relancé l'économie du pays, les Américains, eux, ne le ressentent pas comme tel. Bien au contraire, c'est d'ailleurs ça qui a en partie coûté l'élection au Parti démocrate.
Stéphane Jeunesse pour aujourd'hui l'économie. Merci beaucoup.
RFI Matin.
C'est une attente interminable à la une ce matin, interminable aussi bien pour les Gazaouis que pour les Israéliens, celle de l'accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages annoncée mercredi entre Israël et le Hamas. Son approbation côté israélien a été repoussée hier alors que Benjamin Netanyahou accusait le Hamas de revenir sur certains détails du texte. Son bureau annonce finalement qu'un accord est conclu et le Conseil de guerre votera ce matin. Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens qui continuent ont fait plus de 46 000 morts en un peu plus d'un an selon les autorités locales et 94 otages restent détenus par le Hamas depuis près de 470 jours. Parmi eux, au moins 34 ont été annoncés morts. Alors l'espoir et la crainte d'un accord trop fragile pour tenir, on en parle avec notre invité. Bonjour Ariane Tamir.
Oui, bonjour.
Et merci de prendre ce temps avec nous ce matin. Vous êtes membre de la famille de Tal Shoham. C'est le mari de votre cousine, toujours retenu en otage à Gaza. 6 autres membres de votre famille étaient aussi otages et ont été libérés en novembre 2023. Quel est le sentiment, quelles sont les émotions qui traversent votre famille depuis l'annonce de cet accord mercredi ?
C'est un accord qu'on attend depuis des mois et des mois, même s'il est probablement imparfait et qu'il a beaucoup de problèmes. Mais sans accord, il n'y a pas d'avancement possible. Les familles des otages pensaient depuis le départ qu'on ne ferait revenir les otages que par des accords. Qu'on ne serait pas l'armée qui pourrait tous les découvrir, les chercher, les ramener vivants. Donc évidemment, on est très très heureux qu'il y ait un accord et très angoissé à l'idée que n'importe quoi peut faire,
dérailler,
décaler, empêcher, retarder. Ça va arriver, on en est quasiment sûr, mais on espère que malgré tout, c'est quand même enclenché, disons.
Et on a vu des premières tensions hier que j'évoquais à l'instant. Comment avez-vous vécu justement cette nouvelle journée de revirement et d'incertitude ?
Alors là, sur ce coup-là, moi personnellement, je n'étais pas trop inquiète parce que la pression était telle que même si et le Hamas et le gouvernement israélien chipoté, enfin c'est peut-être pas un mot qui convient pour ce genre de choses dramatiques, on savait que il n'aurait pas trop le choix à la fin, que les Américains, tout le monde a annoncé ça, ça allait se faire.
Alors je le disais, le mari de votre cousine, Tal Shoham, fait partie des otages qui pourraient être libérés dans la première partie de cet accord, les 6 premières semaines. Votre famille a-t-elle clairement été informée ou non sur sa présence dans cette liste de 33 otages qui doivent être bientôt libérés ?
Oui, absolument. Il est sur la liste dans la partie parce que c'est un homme jeune. Hein. Il avait 38 ans, il en a 39 maintenant. Mais apparemment, il est sur la liste humanitaire des hommes blessés ou malades. Donc, on sait ou morts. Hein. Il faut bien dire le mot malgré tout. Donc, tant qu'on ne le verra pas, évidemment, on ne saura pas exactement dans quel état il est. Mais bon. Qu'il soit sur la liste, c'est un grand, grand soulagement déjà.
Le dispositif médical et psychologique est en train d'être mis en place avec cette consigne donnée aux hôpitaux qui vont accueillir les otages libérés, celle de les traiter comme s'ils étaient des survivants de la Shoah. Vous commenciez à le dire, vous craignez l'état physique, psychique dans lequel Tal Shoham va rentrer comme d'autres otages ?
Alors, d'abord, il va retrouver sa famille, sa femme et ses 2 enfants qui ont été libérés donc au mois de le 25 novembre 23. Donc ça, évidemment, parce que beaucoup, il va aussi apprendre la mort hein, de son beau-père, d'autres personnes de la famille qui ont été décédées, qui ont été assassinées, disons, le 7 octobre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il va encaisser, en plus d'avoir lui-même dû survivre à sûrement, enfin on ne sait pas exactement à quoi, les traitements sont très, très individuels selon les otages. Certains ont énormément souffert, ont été mal nourris, déshydratés, et d'autres plus ou moins correctement, entre guillemets, traité. Donc c'est très très difficile de savoir dans quel état il va revenir. Et ce qu'on sait, c'est que les otages qui sont revenus ont dit qu'être un jour ou deux à l'hôpital, ça ne suffisait pas. Ils avaient besoin de plus de temps pour revenir, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on va les garder plus là, déjà au départ.
Justement, les otages de votre famille qui ont été libérés il y a maintenant un peu plus d'un an, comment vont-ils aujourd'hui ? À quoi a ressemblé leur vie depuis leur retour ?
Alors, ils sont des personnes déplacées, hein, puisqu'on ne peut pas retourner au kibbutz Be'eri, d'où ma cousine, enfin, la plupart étaient des invités au kibbutz ce jour-là, mais ma cousine Shoshan et son mari qui lui a été assassiné ne peuvent pas revenir au kibbutz. Ils sont donc, ils sont relogés et bien, hein, il n'y a pas de problème. Je pense que financièrement, on s'occupe d'eux. On les soutient aussi psychologiquement, mais comment dire, ils sont pas revenus vraiment. Tant que le papa des enfants, la petite fille avait 3 ans à l'époque, le garçon 8, ils ont passé déjà un anniversaire sans leur père. Ils sont en attente, ils sont sur pause, ils sont pas vraiment complètement revenus, ça c'est clair.
Il y a l'espoir et l'inquiétude, il y a ce temps suspendu que vous nous décrivez, et puis il y a la colère pour certaines familles d'otages, alors que l'accord qui a été signé, qui va être signé dans les prochaines heures, on l'espère, est sensiblement le même que celui proposé au mois de mai. Vous partagez cette colère, ce sentiment que 6 mois ont été perdus pour rien ?
Alors, je pense que toutes ces questions-là... on y répondra après. Là, c'est vraiment pas le moment. J'espère qu'il y aura des enquêtes et des choses sur tout ce processus qui a amené au 7 octobre et entraîné cette guerre sera analysé, disséqué, etc. Ouais. Mais maintenant, c'est pas le moment. On est vraiment tourné vers... Il y a une colère, c'est sûr, il y a une colère, une incompréhension, le sentiment d'avoir été trahi, y compris par nos propres dirigeants. Donc ça oui, ça existe dans les familles des otages et pas seulement. Les otages ne sont pas seuls, parce qu'on dit qu'il reste une centaine d'otages, mais il y a beaucoup plus de personnes qui sont proches et qui vivent ça vraiment comme si c'était leur propre famille, quoi.
Alors, il y a la peur que la guerre reprenne avant la libération de tous les otages, avant que les 3 phases du cessez-le-feu puissent être appliquées. La guerre pourrait reprendre, évidemment, du fait du Hamas, mais aussi du fait d'Israël. Benjamin Netanyahou est souvent accusé, notamment par les familles d'otages, de chercher à prolonger la guerre pour se maintenir au pouvoir. Les membres du gouvernement issus de l'extrême droite font aujourd'hui pression pour qu'ils reprennent la guerre dans 6 semaines, à la fin de cette première phase. Vous craignez que Benjamin Netanyahou fasse ce choix, qu'il relance la guerre avant la libération de tous les otages ?
Bon, c'est vraiment une crainte, mais je ne pense pas qu'ils vont délibérément, eux, les Israéliens, empêcher le retour des otages. Ça pourrait être que de l'autre côté que ça se passe. Enfin, je suppose. Non, on est tellement perdu dans tout ça que tout est possible. Je peux pas. Enfin, je suppose que vous avez des analystes politiques mieux que moi pour ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on a toujours cette crainte, oui.
Oui, et on voit aussi que les bombardements israéliens continuent sur la bande de Gaza en attendant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le ministère de la Santé du Hamas évoquait jeudi 81 morts au moins en 24 heures. Le Hamas, lui, met en garde que toute agression met en danger les otages. C'est quelque chose qui vous inquiète ?
C'est inquiétant depuis le premier jour, hein, parce qu'on sait très bien que dans les tunnels et ailleurs, les otages sont en danger aussi, de tous les côtés.
Merci. Bien sûr. Merci Ariane Tamir, membre de la famille de Tal Shoham, toujours retenue en otage dans la bande de Gaza depuis maintenant près de 470 jours. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce matin. Je donne aussi rendez-vous à nos auditeurs demain, même heure, pour aborder l'autre grande question de ce cessez-le-feu qui s'annonce, les organisations humanitaires pourront-elles accéder comme elles l'entendent à la bande de Gaza? On en parlera avec notre invité bientôt 6h30 en temps universel.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Nous vous proposons de réentendre l'émission Questions de femmes que nous avions consacrée à la fatigue, un symptôme à ne pas négliger, un spécialiste avec vous.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
L'essentiel des gaz à effet de serre qui créent le changement climatique provient de la combustion des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Mais peut-on s'en passer? Nous irons voir comment l'île de la Réunion fait face à cet enjeu.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.